BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Les pros des cryptos, nos invités aujourd'hui, Stanislas Barthélémy, consultant crypto chez KPMG. Bonjour Stanislas.
Bonjour.
Et Thibaut Boutrou. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Vous êtes COO à l'américaine, attention, de Just Mining, même le nom de votre société est en anglais. Et Vincent Gann qui est en ligne avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Vous êtes-vous analyste technique des marchés financiers et vous allez nous dire un petit peu quels sont les niveaux importants hein, à surveiller pour les grandes cryptos. On commence avec le Bitcoin, le cours du Bitcoin qui semble avoir relativement bien encaissé jusqu'ici la hausse des taux de la Fed américaine. En sera-t-il de même avec les élections de mi-mandat qui vont vite arriver?
Oui, alors effectivement, bonne remarque. Je vous rappelle l'instant, le marché crypto surperforme les actifs risqués, ça c'est une bonne chose. Il effectivement a plutôt bien encaissé la dernière hausse des taux de la Fed. Ma conviction forte, c'est que ce mois de novembre sera le mois de la rupture technique pour le marché crypto. Alors, vous mentionnez le mardi 8 novembre, mardi prochain, les élections de mi-mandat aux États-Unis. C'est un événement politique important, c'est un événement important aussi pour les marchés financiers. Et du fait des corrélations, cela va avoir un impact sur le marché crypto parce que ces élections de mi-mandat vont impacter les indices boursiers, vont impacter surtout le dollar américain. Ça, c'est une première chose. Mais vous parlez donc du mardi 8 novembre. Mardi 8 novembre, c'est aussi une date importante, c'est à peu de choses près, un ou deux jours près, l'anniversaire du record historique du cours du Bitcoin, mardi le 8 novembre 2021, lorsque le marché avait atteint les 70 000 dollars. Et concrètement, depuis ce record historique, le cours du Bitcoin abandonne, j'arrondis, 70% depuis son précédent record historique. Alors, cette différence entre le cours actuel et l'ancien record historique avait déjà été, en mars 2020, rappelez-vous à l'époque, c'était le choc boursier de la crise sanitaire, avait été aussi, à l'époque, une marque de points bas. Alors, au-delà du fait que ces élections de mi-mandat aux États-Unis auront un impact sur les actifs risqués, donc du fait des corrélations, un impact sur le marché crypto, c'est aussi une date qui sera importante pour le cours du Bitcoin. Ce sera un événement intrinsèque aussi pour le marché crypto.
Parlons analyse technique. Y a-t-il un risque de décrochage baissier sur le Bitcoin, donc, en novembre 2018?
Oui, alors, effectivement, bonne question. Pourquoi se poser cette question et pourquoi parler de novembre 2018? Alors, les auditeurs s'en souviennent peut-être pas tous. Novembre 2018, ça a été à l'époque l'ultime phase de dégonflage de la bulle spéculative qui avait culminé fin 2017. Bref, à l'époque, le marché avait décroché de 6 000 à 3 000 $. Et cette phase de décrochage de 6 000 à 3 000 dollars en novembre 2018 avait été précédée de plusieurs semaines d'un écrasement de la volatilité du cours du Bitcoin. Cette mesure de la volatilité du cours du Bitcoin est en train, toute proche de son plus bas historique. En fait, elle arrive sur un plancher. Elle arrive sur un plancher qui, quasiment certainement, va entraîner un fort rebond de cette mesure de la volatilité et pour ce mois de novembre. Alors, c'est un mouvement explosif qui se prépare. Il n'y aura pas d'alternative, si vous voulez. Nous sommes dans une phase de range depuis plusieurs mois, autour des 19-20 000 $. Cette phase-là, pour moi, elle se termine en novembre. Alors, bien sûr, ça serait trop facile si je pouvais vous donner le sens de sortie. Dans l'immédiat, il y a plutôt des indications financières. Lorsqu'on compare, moi, je compare l'action des prix actuels à celle des occurrences passées, c'est plutôt bearish, plutôt baissier. Mais l'analyse en termes de momentum a tendance à davantage ressembler à ce qui s'était passé au premier semestre 2019, qui avait été une phase de renversement haussier. Alors la hausse du jour peut paraître impressionnante, la hausse même depuis 10 séances du marché crypto est impressionnante, mais elle n'est pas en soi cette séance de rupture que moi j'anticipe pour le mois de novembre. Donc restons prudents, pour le moment le cours du Bitcoin reste neutre entre 18 000-19 000 $ et 23 000 $, donc restons prudents.
Très bien, merci beaucoup Vincent Gann pour cette analyse. Analyse technique des marchés financiers, on retrouve donc Stanislas Barthélémy et Thibaut Boutrou. Le sujet, le premier sujet dont on va parler, c'est Polygon, qui a fait énormément de bruit cette semaine au travers de deux nouvelles importantes. Cette blockchain avait déjà fait la promesse de rendre l'Ether plus scalable. Moi, je suis pas du tout un spécialiste. Hein. Je le dis bien, c'est ça. Hein, très bien. Et quelles sont les grandes annonces de Polygon dans un premier temps concernant Meta et plus particulièrement Instagram? Stanislas, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus?
Alors Polygon, c'est une proposition de valeur qui est un peu différente de celle d'Ethereum,
la blockchain Ethereum. Polygon, c'est faire un peu plus de transactions en dégradant un peu la sécurité et la décentralisation. D'accord. Donc ça répondait à une demande assez forte sur les deux dernières années, qui était qu'Ethereum, ça pouvait coûter cher en termes de frais de transaction. Donc Polygon arrivait à capter une partie de ce flux. La force de Polygon, c'est aussi d'avoir une roadmap technologique qui va proposer tout un écosystème de solutions, de nouvelles blockchains pour faire vite, qui va se construire au-dessus de la sécurité d'Ethereum. Donc ça, c'est pour replacer où en est Polygon. Ce qui est assez intéressant sur les derniers mois, et on est en bear market, c'est qu'on a des marques qui ont envie de construire des applicatifs autour de ces cryptos, de ces NFT, etc. Et que Polygon revient assez souvent dans les communiqués de presse et dans les choix de blockchain. Donc là, Meta, cette semaine, ça a fait grand bruit, surtout parce que Meta avait, on va dire, un long historique sur la crypto. Rappelez-vous, au début, ils voulaient créer leur propre blockchain, ils voulaient faire leur propre actif, leur propre stablecoin, et maintenant, ils ont un peu mis tout ça à la poubelle, et ils vont utiliser les infrastructures blockchain publiques, les stablecoins qui existent, et maintenant utiliser les standards comme les NFT. Et donc, Meta, via Instagram, plutôt que de permettre ce qui est aujourd'hui faisable, c'est-à-dire montrer ces NFT, on va pouvoir les créer directement sur la plateforme Instagram, en utilisant la blockchain Polygon. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça va remettre un peu dans le contexte aujourd'hui des réseaux sociaux dits Web 2. Donc, par exemple, Instagram en fait partie, mais il y en a d'autres, on pourrait citer Facebook, toujours dans le même groupe, qui est de trouver un nouveau business model. Aujourd'hui, les utilisateurs de ces réseaux sociaux, qui, par ailleurs, se fatiguent un peu...
Alors, on le voit sur le cours de bourse de Meta. Hein.
Exactement. Moi, qui a fait un choix très métaverse, ouais. Mais on en est pas loin, c'est qu'on est un peu le produit, c'est gratuit, on est le produit, c'est très lié aux revenus publicitaires, et surtout quand on est créateur de contenu, la donnée et tout ce qu'on crée appartient au groupe Meta. Et donc là, cet objectif, c'est un peu de changer leur business model et d'utiliser les NFT pour permettre à leurs créateurs de contenu de monétiser ce qu'ils peuvent produire et de le vendre directement sur la plateforme Meta. Évidemment, alors ils ne l'ont pas dit, mais Meta, j'imagine, va prélever quelques royalties pour se financer. Mais donc Meta utilise des briques aujourd'hui, on va dire, répandues du Web3 plutôt que de créer les siennes. Et c'est ça qui est assez qui interpelle et qui intéresse.
Thibaut Boutroux, il y a une annonce de JP Morgan en lien avec Polygon. Quelle est-elle?
Ouais, il y a une belle annonce de JP Morgan qui a réalisé une transaction sur la finance décentralisée. Donc ça s'inscrit dans un projet plus global, un projet pilote qui est mené en collaboration avec l'autorité des marchés de Singapour. C'est le programme Guardian. Et on fait le lien avec Polygon parce qu'en fait, cette transaction, elle a été opérée sur la blockchain Polygon. Donc c'est intéressant parce que c'est une blockchain publique. C'est la première fois que c'est fait sur une blockchain publique, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on a une transparence et une traçabilité de l'opération, donc que tout à chacun peut derrière aller voir comment ça s'est déroulé. D'ailleurs, ils ont fait une communication hyper intéressante sur le sujet, où ils ont détaillé, où ils ont donné des explications. Donc voilà, tout ça s'inscrit dans un programme plus complet qui est très intéressant. En plus, l'opération s'est bien déroulée, un franc succès. Donc pour une première expérimentation, c'est plutôt à saluer. Et d'ailleurs, ils ont signalé qu'ils allaient mener d'autres expérimentations sur d'autres écosystèmes et d'autres blockchains. Donc hâte de voir la suite. C'est plutôt une nouvelle encourageante.
Autre sujet dont nous allons parler maintenant, Alameda Research, l'entreprise de trading de Sam Bankman-Fried, c'est le patron de FTX, a dévoilé son bilan au 30 juin, qui était plutôt controversé, hein, vous nous direz pourquoi. Quel est le rôle, Stanislas, de Alameda Research, et quelles sont les choses à noter dans ce bilan?
Alors c'est quelque chose d'un peu complexe, donc je vais essayer de repartir par les bases.
On a un peu de temps, ça tombe bien. Essayez de faire simple quand même.
On a Sam Bankman-Fried, donc qu'on appelle SBF pour faire rapidement pour les intimes entre guillemets, qui est le patron de la plateforme d'échange qui s'appelle FTX, qui est une grande plateforme d'échange derrière Binance et qui se bat avec Coinbase au niveau des parts de marché. Et ce Sam Bankman-Fried a en même temps créé en 2017. Une sorte de hedge fund qui s'appelle donc Alameda Research. Cointelegraph, qui est un média crypto aux États-Unis, a révélé et a eu des sources, tout ça n'est pas encore très public, donc je vais utiliser un peu le conditionnel, a révélé, on va dire, l'état financier de ce Alameda Research au 30 juin dernier. Ce qui est à noter et ce qui est, on va dire, un peu inquiétant si c'est vrai, à voir, on a besoin de plus d'informations, c'est que le bilan est qu'ils ont 14 milliards à peu près d'actifs, qu'ils ont des parts dans des entreprises, donc de l'equity pour à peu près 2 milliards, et sur le reste, c'est de la crypto, mais c'est c'est de la crypto en masse qui est liée à FTX, parce que la plateforme d'échange a son propre jeton, sa propre crypto, et donc la moitié des possessions d'Alameda Research, c'est ce token de FTX qui est pas très liquide sur le marché et qui, pour un certain nombre, en plus, est locké, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser, il y a un système pour les investisseurs où il faut attendre un certain temps. Et à partir de ces possessions, qui sont très centrées sur l'écosystème FTX, le token d'ailleurs n'est pas de l'equity, on n'a pas le droit d'avoir de dividendes sur la plateforme, on a simplement droit à des discounts sur la plateforme, donc ce n'est pas non plus un modèle hyper robuste, ils ont contracté des prêts avec ce token en collatéral. Et donc c'est plutôt une news qui interpelle, c'est de savoir finalement quelle est la liquidité de ce fonds qui était très, on va dire, très successful, qui a bien marché pendant le marché haussier, puisqu'ils étaient très exposés au marché, mais comme tout a monté, ça se passait bien. Le jour où on est en marché baissier, en bear market comme en ce moment, on se demande quelle est la liquidité. Et ça fait plutôt écho à ce qui s'est passé dans l'actualité très récemment, avant l'été, avec les acteurs comme Voyager, Celsius ou BlockFi, qui étaient pas loin de la banqueroute, parce qu'ils avaient contracté des prêts avec d'autres acteurs. Donc là, la question, c'est est-ce que Alameda Research est en capacité d'honorer les prêts? Je pense à un prêt notamment de 370 millions ces voyageurs. Est-ce qu'ils ont les USD, est-ce qu'ils ont le dollar pour le rembourser le cas échéant? Donc c'est une affaire à suivre, mais c'est, faudrait utiliser un peu de conditionnel puisque c'est pas encore public ces informations, c'est pas avéré.
Thibaut, quelque chose à ajouter sur ce dossier à la Alameda Research et les risques qui lui sont liés?
Il y a plusieurs risques, effectivement, si les informations s'avèrent être avérées. Le premier, c'est qu'il y a un potentiel, alors je mets entre guillemets, conflit d'intérêts, parce que du coup, FTX est une société sœur de Alameda Research, et on se rend compte que si ces chiffres sont parfaitement exacts, on se rend compte que la puissance financière d'Alameda repose en partie sur des actifs qui appartiennent à FTX, qui est avec le même fondateur, etc. Donc là, il y a déjà un premier sujet, même si c'est pas une surprise qu'Alameda détienne beaucoup de FTT. Donc ça, c'est le premier sujet. Il y a un second risque qui est important, c'est ce risque de liquidité. On a beaucoup d'actifs qui sont illiquides, qui sont soit collatérisés, soit gelés. Donc ça veut dire que finalement, on a une grosse trésorerie, mais qui n'est pas forcément utilisable en l'état selon les opérations qui veulent être réalisées. Donc ça interpelle également. Et il y a un dernier sujet qui est sur la composition, quand on regarde un petit peu toutes les petites lignes, parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont volatiles en grande quantité par rapport à la liquidité des marchés. Donc ça veut dire que si demain, pour X ou Y raison, ils doivent venir à liquider une partie de ces transactions, de ces actifs, pardon, eh bien ils risquent d'écraser les cours et ça va forcément se ressentir sur le marché.
Thibaut Boutroux, on reste avec vous pour parler d'un revenant. Un revenant sur Twitter, il s'appelle André Cronje, c'est comme ça qu'on dit?
André Cronje, je vais le prononcer comme vous à la française parce que je veux pas m'attirer les
foules. C'est un nom quelle origine?
Je sais pas.
Sud-africain.
Sud-africain. Je ne parle pas Afrikaners. C'est l'une des figures emblématiques de Twitter. Pourquoi ce personnage est-il connu dans l'écosystème crypto?
Un des personnages importants de notre écosystème, une des figures de proue de la finance décentralisée, qui a contribué à de nombreuses choses, à de nombreux projets. Il est notamment le fondateur de Yearn Finance. Il a été un des hommes clés du développement de la blockchain Phantom. Donc il a beaucoup contribué. Il s'était aussi fait repérer parce que médiatiquement il avait fait quelques sorties sur l'écosystème en disant ses vérités qui avaient
été
pas mal.
Ce qu'il avait dit. Pour résumer, en résumé.
Non, il s'interpellait parfois sur les propos et sur les réelles valeurs que certains acteurs avaient dans la DeFi qui n'étaient pas forcément les mêmes que les siennes. En fait, du coup, il avait disparu de manière assez inattendue en mars dernier. Il a déclaré que les cryptos c'était terminé pour lui pour différentes raisons, dont celle-ci. Et de manière aussi inattendue et soudaine qu'il est parti, il est revenu visiblement hier sur les réseaux en remettant des bannières crypto sur ses différents réseaux et en disant qu'il était de retour. Donc à voir ce que ça implique, mais en tout cas, ça s'est tout de suite fait ressentir.
Donc on voit sur Twitter, hein, c'est ça?
Sur Twitter, sur LinkedIn.
Il a peut-être payé les $8. Par mois de...
On ne sait pas.
D'Elon Musk. Stanislas, oui, pourquoi ce retour finalement est assez mal perçu par la communauté?
Il est un peu coutumier du fait de partir et de revenir. Donc Thibaut a bien expliqué la genèse et pourquoi André Cronje a été admiré. Il est toujours un peu...
D'accord.
Ou Cronje. Je me range à votre prononciation. André Cronje a été admiré avec un mantra assez étonnant, c'est I test in prod, c'est-à-dire qu'il lançait des applicatifs en ne les testant pas, il est lancé comme ça, on va dire, dans l'arène. Ce qui fait que quand on est un des créateurs de la finance décentralisée, c'est hyper stimulant intellectuellement. Mais dès qu'il faut structurer le produit, faire des audits, avoir une vision à plusieurs années, etc., lui n'en était pas capable et n'en avait pas forcément la volonté. Donc il a été un peu frivole, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il est passé d'un projet à l'autre en disant je vais mettre toutes mes idées en production, mais sans faire le suivi derrière. Ce qui fait que beaucoup d'investisseurs l'ont suivi les yeux fermés après le succès de Yearn, qui existe toujours et qui est toujours un gros acteur. Et le problème, c'est que quand on teste en production et qu'on n'a pas testé ses idées et que le code n'est pas tip-top, il y a eu des hacks, des failles, ce qui fait que des investisseurs ont perdu. Et il a fait ça plusieurs fois. Et donc son retour dans la communauté après quelques échecs, malgré cet énorme succès et l'implication qu'il a pu avoir dans l'écosystème, est assez mal vu, surtout qu'il revient en changeant son poste LinkedIn en disant oui. « Je suis chef des mèmes, enfin des mimes », c'est-à-dire de toutes les blagues de l'écosystème blockchain fantôme. Donc en plus, c'est un retour un peu mal humoristique et un peu caustique.
Timo Boutrou, on va parler du X-Day ou X-Day, je sais pas comment.
X-Day, ouais.
Ouais, puisque une partie des regards du monde des crypto-monnaies a été tournée vers Paris à l'occasion de ce X-Day. C'est un événement dédié à la blockchain Elrond.
C'est ça.
Voilà. Pourquoi est-ce Paris a été retenu et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce X-Day?
Bah, déjà, ce qu'on peut retenir pour généraliser un petit peu, c'est la place de Paris qui encore une fois se retrouve au l'épicentre un petit peu de l'écosystème. C'est pas la première fois et ça a tendance à se multiplier sur les dernières semaines et les derniers mois. Donc ça matérialise un petit peu plus les propos politiques qui veulent faire de la France un hub européen de la blockchain et des cryptos. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, le ministre du numérique était présent à l'événement pour encourager toute la démarche. Donc ça, c'est une des premières choses à souligner. Ensuite, pourquoi Paris pour Elrond? C'est assez logique parce que Paris et la France est un grand marché de Elrond. C'est là où ils ont une grande communauté. Donc pour une première édition, ça faisait assez sens finalement de le faire en France. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans cet événement, c'est que on s'ouvre un petit peu et on sort un petit peu de la galaxie très tech, très crypto. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à rentrer dans de l'adoption, dans de l'expérience utilisateur. On parle vraiment de solutions finales directement à l'usage de l'utilisateur. Donc on a parlé de moyens de paiement, de passerelles ultra simplifiées via la DeFi. On a parlé de différentes choses. Alors on a encore parlé de métaverse effectivement. Mais voilà, toutes ces choses-là qui vont dans le sens de l'adoption. Alors encore beaucoup de choses à prouver techniquement effectivement, mais on est dans la bonne voie et c'était intéressant de constater beaucoup de gens qui étaient là aussi pour construire l'écosystème de demain.
Stanislas, quelque chose à rajouter?
C'est toujours bien que Paris soit, on va dire, bien vu dans le Web3. Après, moi, j'ai quelques réserves sur l'écosystème Elrond et cette blockchain, pour des raisons techniques et d'utilisation, mais c'est un bel événement qui rend pas mal. Avec toujours la critique autour d'Elrond, c'est qu'en termes de marketing, ça rend bien, mais est-ce que derrière, ça délivre? Est-ce qu'il y a une proposition différenciante par rapport à des écosystèmes comme Ethereum ou même Polygon? Je pense pas. Mais en tout cas, c'est un bel événement et là où je suis d'accord avec Thibaut, c'est que le ministre se déplace et vient un peu confirmer les dires qu'il y a pu avoir du gouvernement, même avec Bruno Le Maire, c'est-à-dire on va être en support de l'écosystème crypto. Et il citait le terme crypto et c'était plus blockchain et des termes un peu abscons pour ne pas dire l'éléphant dans la pièce crypto. Maintenant, j'espère qu'ils sauront dire le prochain terme qui est Bitcoin. Et je pense que ça viendra.
Bon, il nous reste quelques minutes pour faire un bilan. On est en fin d'année. On fait toujours des bilans en fin d'année. Bon, on est au mois de novembre, hein, c'est bientôt la fin de l'année de 2022. Ça vous tente un petit bilan pour nous dire un petit peu ce que vous avez retenu de cette année 2022 dans le monde des crypto-monnaies? Thibaut, on commence avec vous.
Alors, de cette année, il y aurait beaucoup de choses à dire, enfin, en quelques minutes, mais si on veut résumer déjà sur ce mois d'octobre, parce qu'il s'est passé pas mal de choses ce mois-ci, c'est un mois qui est déjà dans le vert, c'est important de le souligner, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup cette année, donc ça fait toujours plaisir. Mais quand on regarde un peu plus dans les détails, on se rend compte qu'il y a pas mal, sur les fondamentaux, pas mal de points un petit peu négatifs. On est encore sur les volumes on-chain qui sont encore en train de diminuer pour le xème mois consécutif. On est à un mois record aussi au niveau des hacks, donc ça c'est un petit peu dommage. Mmh. Mais voilà. Mais par contre, j'ai entendu tout à l'heure Vincent qui disait que le mois de novembre serait celui de la reprise, donc j'ai hâte de voir ça.
J'ai dit ça ou en intervenant?
Non,
ça prend
Vincent
Gann,
très bien. Ça juste avant.
Ah, Vincent Gann, bien sûr.
J'ai hâte de voir ça.
Trois Vincent dans l'émission aujourd'hui. Hein. Vincent Gann, Vincent Lessane et moi-même. Quelque chose à rajouter, Stanislas ?
Ça a été une année très intéressante. La première chose, c'est qu'il y a eu une corrélation de la crypto par rapport au marché financier, ce qui casse un peu l'image qu'on aime à donner à la crypto comme une classe d'actifs qui était décorrélée. Mais ce qui est quand même intéressant dans ce marché baissier, qui par ailleurs a stagné et on va dire ça a trouvé un support sur les derniers mois, c'est ces entreprises qui prennent en main le sujet. Il y a des banques françaises qui, à l'été, ont annoncé faire des partenariats avec des acteurs de conservation. Il y a le groupe Meta, mais on n'a pas cité. Il y avait même Starbucks, une banque au Brésil qui s'appelle Nubank qui s'est lancée dans le sujet aussi. Les réseaux sociaux Web3 avec, par exemple, un Lens Protocol qui commence à avancer. Et puis, une maturité de la technologie qui, pareil, commence à être manifeste et à démontrer toute son efficacité, les fameuses layer 2, c'est-à-dire qu'on a enfin la capacité à faire beaucoup plus de transactions sans faire de compromis sur la décentralisation et la sécurité. Et donc, malgré, on va dire, des cours des cryptos un peu en berne, on sent que l'écosystème avance. Et c'est ça qui est positif. Quand les fondamentaux sont bons, c'est bon pour la suite. Mmh. Alors après, les prix à court terme, ça, c'est pas mon sujet. C'est plus le sujet de Vincent Gann.
D'accord. Stanislas, autre question. On suit beaucoup ce qui se passe aux États-Unis en termes de politique monétaire de la Fed. La grande question, c'est quand est-ce que la Fed va pivoter ? À quand le pivot de la Fed ? C'est-à-dire le moment où elle va arrêter de remonter ses taux. On avait les chiffres de l'emploi américain aujourd'hui. On va surveiller l'inflation qui va être publiée la semaine prochaine. Vous suivez tout ça ?
Oui. La corrélation entre le marché crypto et le marché traditionnel fait qu'on est forcé à regarder la macroéconomie et même la géopolitique. Et c'est ça qui est intéressant. Et le juge de paix, c'est l'inflation aux États-Unis, comme vous l'avez dit, et la réaction à chaque fois de la Fed et de Jerome Powell. Et donc ce fameux pivot. Alors le consensus dit que maintenant c'est Q1 2023. Normalement, on devrait se stabiliser à un certain niveau.
Un peu plus de 5%.
C'est ça, exactement. Exactement, à un peu plus de 5%, donc il y a encore un peu de marge pour augmenter. Hein. C'est ce que Jérôme Powell disait encore, c'était hier ou avant-hier, pour l'augmentation des taux. Ce qui est intéressant derrière, c'est de regarder tout ce qui est annexe à l'inflation, donc c'est regarder le prix des matières premières, les chiffres de l'employment rate, donc sur le taux de chômage.
C'est pas un monde à part quand même les cryptos, on regarde vraiment ce qui se passe dans l'économie réelle.
Ouais. C'est obligatoire. C'est obligatoire aujourd'hui, et donc c'est tous ces chiffres-là qu'on va regarder. Et puis après, au niveau politique, il y a des rumeurs en Chine qui disent que peut-être que ça va être un peu plus soft sur la politique vis-à-vis du Covid.
Donc là, pour raison du décollage des indices boursiers.
Exactement.
Aujourd'hui,
Il y a les midterms aux États-Unis qui vont arriver sous peu. Donc il y a un peu tous ces sujets, évidemment le conflit, donc la guerre russo-ukrainienne sur ce sujet-là. Donc on ne peut pas rester dans notre bulle quand on suit les cryptos, ce qui fait que c'est hyper intéressant en termes de culture générale de suivre l'actualité. Ce qui fait que oui, on aimerait bien faire en sorte que le cours du Bitcoin ne soit lié entre guillemets qu'à son sous-jacent, ce qui n'est pas le cas. Donc on suit tout ça au quotidien. Et c'est ce que fait votre chaîne, donc on la regarde aussi pour suivre.
On vous en remercie et surtout merci de venir nous voir donc dans BFM Crypto. Merci à tous les deux d'avoir été là aujourd'hui. Stanislas Barthélémy, consultant crypto chez KPMG, et Thibaut Boutrou, COO de Just Mining. Bientôt 17h. Et oui, le temps passe très vite dans BFM Bourse sur BFM Business. On fait une toute petite pause et puis on se retrouvera à 17h justement pour la deuxième heure, la troisième heure, oui, le temps passe vraiment très vite, troisième heure de cette émission, dernière heure de cette émission qui va nous mener jusqu'à la clôture à la Bourse de Paris et un petit peu au-delà. À tout de suite.